Bien, même si le temps a passé très vite, on va prendre le temps quand même de continuer d'avancer dans notre étude sur les raisons de croire, pourquoi je crois, sur cette révélation écrite que nous avons entre nos mains, la Bible, que nous considérons, oui, comme la parole de Dieu qui nous a été transmise. Et la dernière fois, on a pu voir plusieurs raisons pour lesquelles la Bible est un ouvrage extraordinaire, de voir les affirmations et les revendications hein, de cet ouvrage qui revendique Dieu comme étant l'origine de ce livre, de cette parole qui a été insufflée par l'Esprit Saint à des hommes qui fidèlement retranscrit avec leurs mots, avec leur style, cette révélation divine. On a vu hein, que bon, la Bible, elle est comme ça, elle a cet extraordinaire aspect. Et je pensais à ça aujourd'hui, parce que on a vu que en Christ, nous avons l'homme parfait parce que c'est Dieu qui est incarné. On a cette fusion entre Dieu et l'être humain. Et avec la révélation écrite, on a encore une fois ce même rapport où Dieu, eh bien, a choisi de se révéler à travers les hommes hein, qui ont retranscrit sa parole. D'ailleurs, John Stott, dans son ouvrage Comprendre la Bible, il dit ceci, il dit, l'écriture a donc à double hauteur, c'est là une vérité importante dont il faut se souvenir. D'une part, Dieu a parlé, révélant la vérité et préservant de toute erreur les auteurs humains, sans toutefois violer leur personnalité. D'autre part, les hommes ont parlé, faisant libre usage de leur faculté, sans toutefois déformer le message divin. Leurs paroles étaient vraiment les leurs, mais elles étaient aussi celles de Dieu. Nous sommes donc assurés que ce que l'Écriture dit, c'est Dieu qui le dit. Et donc, on a toutes les raisons de croire exactement que, voilà, la Bible, c'est la parole de Dieu qui l'a confiée à des êtres humains et qui ont transmis cette connaissance et qui a été préservée à travers les siècles, même pour nous encore aujourd'hui. Et donc, avant de continuer de vraiment voir les raisons hein, pour lesquelles nous pouvons croire en la Bible, qu'elle est vraiment la parole de Dieu, j'aimerais qu'on s'attarde à cette question de la transmission et de la préservation des écrits bibliques. C'est quand même une chose extraordinaire de voir qu'à travers les siècles, nous avons un ouvrage qui a su affronter diverses attaques, qui a su affronter le temps lui-même et nous parvenir à nous encore aujourd'hui. On peut même aujourd'hui, c'est extraordinaire la facilité avec laquelle, bon, nous, en tout cas, dans les pays occidentaux, dans les pays développés, où il y a cet accès à tellement d'ouvrages, et la Bible, elle fait partie de tous ces ouvrages auxquels nous avons accès, de pouvoir même avoir la Bible sur quelques applications hein, de téléphone, sur l'ordinateur, et peu importe où nous allons, nous pouvons prendre la parole de Dieu avec nous. Mais j'aimerais vraiment souligner l'importance de cette question de la transmission, hein, du fait qu'on a cet ouvrage extraordinaire et que si on reconnaît que Moïse est celui qui a écrit, qui a transcrit les premiers livres de la Bible, hein, les cinq premiers, le Pentateuque, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on peut attribuer une date de rédaction de la Bible, au moins un commencement de rédaction de la Bible aux environs de 1500 ans avant Jésus-Christ. Ce qui fait que la Bible, eh bien, c'est 3500 ans de retranscription, de transmission, de préservation des écrits bibliques. Sans compter 3500 ans également d'influence hein, dans le monde, que ce soit d'abord à travers un peuple, mais ensuite que l'influence de ce livre, de cet ouvrage, quelque part a conquis, hein, dans le bon sens du terme, a conquis le monde par son message, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, avec un ouvrage aussi ancien, la légitime question peut se poser par rapport à son authenticité, par rapport à la fiabilité des documents, hein, et de se demander est-ce que c'est vraiment Hein, ce que eux ils ont entendu il y a des siècles, des millénaires de cela, est-ce que c'est vraiment ces choses-là que nous avons aujourd'hui, hein, entre nos mains? Alors d'abord la transmission, qu'est-ce que c'est la transmission? Ben, c'est ce processus par lequel, eh bien, la révélation écrite a été copiée, a été préservée pour les générations successives. À travers les siècles, l'archéologie, bon, a montré qu'à travers les siècles, l'être humain a été capable d'écrire, hein, il y a même des ouvrages écrits, même encore plus anciens, si vous voulez, que la Bible, hein, des stèles qui ont été retrouvées. Mais à travers les siècles, ce sont de multiples supports qui ont été employés pour écrire. Hein, il y avait des tablettes en pierre, en bois, en argile. Il y a les fameux papyrus, hein, qui étaient ce support d'origine végétale. Il y avait les parchemins et les vélins qui ont des parchemins d'une qualité supérieure, mais ce sont des peaux d'animaux, hein, qui étaient grattées, qui étaient polies, qui étaient cousues ensemble, hein, pour former des rouleaux sur lesquels, eh bien, on écrivait. Et la Bible, hein, a été écrite sur de nombreux parchemins ainsi. Il y a aussi, bon, le bronze, hein, le métal était aussi employé pour écrire. Les Romains, par exemple, les textes de loi, les décisions de Sénat, étaient gravés, hein, dans du bronze, pour que ça puisse, hein, durer plus longtemps. Mais pour ce qui est des écrits bibliques, ce que nous savons, c'est que les premiers textes donc, ont été écrits sur des rouleaux de papyrus ou sur des parchemins. D'ailleurs, on compte, juste pour le Nouveau Testament lui-même, environ 1200 manuscrits qui ont été recopiés donc sur des papyrus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement vraiment au deuxième, troisième siècle de notre ère que ben, les scribes ont commencé à écrire sur du papyrus ou des parchemins qui ont été pliés, qui ont été cousus pour former ce qu'on appelle un codex. Et un codex, c'est vraiment bon, le format que nous on a aujourd'hui pour un livre, où on a des feuilles qui sont mises ensemble, agrafées, collées, etc. L'idée du codex, c'était ça, c'était un ouvrage qui était donc mis ensemble à la différence des rouleaux. Hein. Les rouleaux, ben, il fallait tout dérouler. Hein. C'est pour ça que certains parchemins font plusieurs mètres, hein, de certains livres de l'Ancien Testament, par exemple. Mais donc le codex a été inventé. Et donc le christianisme a été quelque part parmi les premiers à utiliser ce support, et ils ont copié donc les Écritures saintes sur ce type d'ouvrage. Mais voilà, ça c'est les différents supports que l'archéologie nous montre qui ont été employés pour notamment, eh bien, retranscrire, mais aussi transmettre et préserver la parole qui a été révélée. Deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que dans la Bible elle-même, bah, nous voyons qu'il y avait un mandat qui avait été donné de préserver, de partager également, et on voit que plusieurs avaient entrepris ce travail-là. Si on prend dans l'Ancien Testament, bon, Moïse, il était considéré comme étant quelque part le porte-parole, si vous voulez, ou le scribe, hein, de Dieu, parce qu'on voit dans le Pentateuque que Dieu parlait à Moïse, et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit, il a retranscrit, hein, sous l'ordre de Dieu. Et donc, à travers l'Ancien Testament, hein, Moïse, il est vraiment accepté comme celui, hein, qui a écrit, hein, retranscrit le Pentateuque pour le peuple d'Israël et pour les générations après. Donc, dans ces cinq premiers livres, nous retrouvons des mentions justement donc de Moïse qui a écrit dans un livre, ben, les lois. Les activités, l'histoire du peuple d'Israël pendant son errance dans le désert notamment. Donc Exode 24, hein, verset 4 nous dit que Moïse avait écrit toutes les paroles de l'Éternel, hein, que c'est une chose qu'il a fait assez souvent, hein, d'écrire, de retranscrire ce que l'Éternel avait dicté. Dans Exode 34, là également, l'Éternel lui donne l'ordre d'écrire les paroles qu'il vient d'entendre, parce que voilà, c'était une trace, c'était une preuve qui devait durer dans le temps pour le peuple d'Israël de savoir ce que Dieu attendait d'eux, de comment ils devaient vivre, de quelle manière leur vie allait être différente, distincte de celle des autres nations. Et donc, tous les versets, hein, que je vous ai mis, c'est ce que l'on voit, donc Moïse qui a écrit la loi, qui a également confié ces textes aux sacrificateurs, hein, ceux qui portaient l'arche de l'Alliance. On sait que bon, Moïse a écrit des cantiques, etc. Mais Deutéronome 31, 24, il nous dit que lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, eh bien, on a ce sens que Moïse a vraiment fait ce travail extraordinaire et je pourrais peut-être même dire laborieux de retranscrire toutes ces choses. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait relu justement les passages du Pentateuque, les passages concernant les lois et les règles de vie pour le peuple d'Israël. C'est une tonne d'informations. Alors c'est sûr que bon, ça paraît pas grand-chose par rapport au code de loi que nous avons aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, mais c'est quand même un travail assez conséquent hein, pour un homme. Puis nous voyons que Israël donc avait reçu donc ce mandat de partager la parole de Dieu et de la transmettre déjà eh bien, à leurs propres enfants. Deutéronome chapitre 6, hein, versets 6 à 9, nous lisons que ces commandements hein, que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et seront comme des frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc il y avait cette notion non seulement de partager la parole de Dieu, mais il y avait cette notion vraiment de la vivre et quelque part cette intimité avec la parole de Dieu que Dieu exigeait de chaque membre du peuple d'Israël. Les livres que Moïse a écrits ont été préservés avec l'arche de l'Alliance par les Lévites. Dans Deutéronome 31, verset 24, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre donc les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche et de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et sera là comme témoin contre toi. Alors, certains commentateurs, par rapport aux mots qui sont employés dans l'hébreu, c'est un peu difficile à ce moment-là de voir si ça signifiait que les écrits étaient dans l'arche ou à côté de l'arche, mais ce que l'on sait pour sûr, c'est que voilà, ça faisait partie des choses que les Lévites avaient cette responsabilité de veiller sur l'arche de l'Alliance, mais de veiller également hein, sur les textes écrits par Moïse. Bon, on sait que dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tablettes hein, des 10 commandements de la loi de Dieu, mais il y avait donc cette responsabilité de protéger, de veiller et de préserver. Par la suite, on voit que plusieurs ont continuer dans ce sens-là, notamment Josué, qui était le successeur de Moïse, après sa mort, il s'assura de lire notamment et de transmettre au peuple tous les livres de Moïse. Donc, quand Josué, il bâtit un autel à l'Éternel, hein, sur le mont Ébal, là, il va prendre le temps de prendre tous ces textes rédigés par Moïse, reçus de Dieu, et il les a donc présentés, lus en présence de tout Israël. Si vous regardez, bon, verset 32, hein, Josué écrivit lui-même sur des pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Donc là, on a déjà une notion de quoi? Ça a été recopié déjà. Okay? Donc on est en train de voir ce processus de transmission, de retranscription de la parole de Dieu. Et si vous lisez un peu plus loin au verset 34, bon, il a lu toutes ces choses hein, devant tout Israël, mais voilà, il lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Hein, il n'y a rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Donc, déjà, tout de suite après Moïse, on a, ben, les écrits qui sont recopiés, on a cette responsabilité de préserver, de protéger, d'enseigner, d'inculquer, d'apprendre ces textes. Et donc cette même loi de Moïse, hein, cette expression loi de Moïse, vous la retrouvez hein, constamment dans l'Ancien Testament. Elle a été transmise notamment au roi de Juda, hein, et ces textes ont été leur guide pendant leur règne, hein, à l'époque de David, de Salomon. Les livres, les ouvrages avaient été compilés, hein, et jusqu'à cette époque, ils avaient été pris et placés dans le trésor du temple, avec l'arche. Et donc là, encore une fois, les prêtres, les lévites, hein, qui servaient dans le temple, avaient cette responsabilité de protéger et de préserver. Nous avons donc ce passage de 1 Roi, chapitre 8, verset 6, et je veux juste connecter ce passage avec celui qu'on a vu il y a quelques instants par rapport au fait que, voilà, il devait garder hein, les textes de Moïse avec l'Arche de l'Alliance. Là, les sacrificateurs portèrent l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Donc, on comprend que si l'Arche de l'Alliance avait été déplacée, mais qu'il y avait encore toutes ces choses qui devaient être accompagnées, qui devaient accompagner l'Arche de l'Alliance, notamment les écrits de Moïse, on comprend que ces mêmes écrits étaient là dans le temple, dans le trésor du temple. D'ailleurs, dans 2 Rois, chapitre 22, verset 8, alors il y a eu une période, si vous ne connaissez pas l'histoire hein, du peuple d'Israël, hein, après Salomon, hein, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Vous aviez le royaume de Juda dans le sud, le royaume du nord, Israël, et que à cause de cela, il y a eu des hauts. Bon, Israël, le nord, ça a toujours été catastrophique, hein, idolâtre, pas de repentance, rien. Les rois de Juda, c'était quasiment un coup un bon roi, un mauvais roi, un bon roi, un mauvais roi, etc. Une sorte d'alternance. Mais ce qui a fait qu'à un moment donné, beaucoup de gens avaient presque oublié ce que l'Éternel avait fait. Et d'ailleurs, hein, dans le passage de 2 Rois, avec notamment Josias, la situation était tellement mauvaise que le temple, il était quelque peu en ruine, hein, il tombait en morceaux. Mais là, il y a un réveil spirituel qui se fait avec Josias. Et là, il retrouve donc les textes de loi, verset 8. Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Chafan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et tout de suite, Hilkija donna le livre à Chafan et Chafan le lut. Et par la suite, donc, Josias va lui-même hein, reprendre ces textes et les relire hein, au peuple en présence de tous pour que eh bien, le peuple de Dieu puisse de nouveau hein, reconnecter avec un ouvrage qui, malgré les hauts et les bas, avec des rois idolâtres ici et là, même dans le royaume de Juda, la parole de Dieu a été préservée. Et pendant le règne d'Ézéchias, d'autres livres ont été donc ajoutés au trésor, hein, avec les textes sacrés, si on peut les appeler ainsi, notamment donc les psaumes de David, hein, les proverbes de Salomon, d'autres livres prophétiques tels que Ésaïe, Osée, Michée. Et d'ailleurs, hein, dans Proverbe 25, verset 1er, vous lisez ceci: Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Donc on voit que même après tant d'années qui séparaient hein, Salomon hein, du roi Ézéchias, eh bien, on avait encore ces textes et on les a gardés et on les a préservés. Et donc, ce processus de transmission a ainsi continué à travers l'histoire du peuple d'Israël et même eh bien, pendant l'exil à Babylone. S'il y a des livres qui ont été dispersés, ils n'ont pas été perdus pour autant. Hein, lors de l'exil à Babylone, ce sont les prophètes qui se sont chargés de rappeler au peuple eh bien, les lois de Dieu et de leur enseigner. Daniel nous rappelle hein, dans au chapitre 9, verset 11, que tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Donc des hommes comme Daniel, qui avaient reçu cette éducation, dont les parents avaient inculqué, hein, selon le commandement de Dieu de Deutéronome, connaissaient la loi et ils vivaient cette loi. Et il était un exemple pour tous ceux qui étaient là en exil à Babylone. Au verset 13, il dit, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, et nous ne sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Donc le témoignage de Daniel, qui même en captivité, lui-même, on connaissait la loi et a préservé cette loi pour les autres. Ensuite, avec le retour d'exil, Esdras, chapitre 6, verset 18, nous dit ici qu'ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Donc, même là, après l'exil, on voit que, il y a des hommes qui avaient connaissance de ce qui avait été écrit par Moïse. Comment est-ce qu'ils ont eu cette connaissance-là? Parce que les textes ont été préservés. Néhémie chapitre 8, verset 1er, nous dit également que tout le peuple qui s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Qu'est-ce qu'il a apporté? Le livre. Il n'a pas apporté une tradition orale, il n'a pas apporté une récitation, il a apporté un ouvrage écrit. Et donc, vers 539 avant Jésus-Christ et après le retour d'Israël hein, de la captivité babylonienne, donc Esdras a rassemblé ces ouvrages, les a compilés, les a inclus hein, dans cette préservation hein, de ce que nous on considère aujourd'hui comme l'Ancien Testament. Hein, on considère que c'est donc sous Esdras que ce qu'on appelle le canon de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les livres qui étaient inclus, reconnus comme étant la parole de Dieu, ont été compilés donc sous Esdras. On va juste s'arrêter là pour ce soir. Hein, on a vu déjà pas mal de choses un peu rapidement, mais Dieu voulant, la prochaine fois, on passera un peu plus de temps dans ces choses et nous verrons. Hein, nous verrons que il y a de toute évidence, l'action extraordinaire de Dieu dans la préservation de sa parole. Malgré, encore une fois, toutes les attaques de l'adversaire, les attaques des êtres humains contre la parole de Dieu, c'est extraordinaire qu'aujourd'hui, hein, 3500 ans après le début de la rédaction, hein, quelques 2000 ans après le dernier livre écrit dans la Bible, nous ayons, mais alors, une quantité considérable de manuscrits qui ont été donc, transmis, qui ont été copiés à travers les siècles, et qu'aujourd'hui, moi je le dis, on n'a aucun doute que ce que nous avons entre nos mains, c'est ce qui a été le message qui a été transmis à l'époque. Et on verra encore plus tard donc les différentes raisons de croire cela et Dieu voulant donc mardi prochain nous aborderons ces choses. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir?